L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Alors aujourd'hui, nous allons faire un portrait d'étudiante avec une ébéniste en devenir. Bonjour Léa Vaucel.
Bonjour Charlie.
Alors on parlera de ton parcours et tu nous parleras des différentes facettes du métier d'ébéniste que tu as pu expérimenter. Puis nous écouterons la version longue de l'interview de Cléa Provence, une poétesse que nous avions déjà reçue dans une émission qui avait dû être écourtée. On en saura donc plus sur elle, son parcours et les différents aspects de son activité. Enfin, nous passerons aux chroniques étudiantes avec Marie qui nous rejoindra tout à l'heure. Mais d'abord, Robin Hulin, journaliste de Radio Alpa, vient nous annoncer une émission prochainement diffusée sur notre antenne, la restitution d'une conférence sur l'Europe. Bonjour Robin Hulin.
Bonjour Charlie.
Et alors, on commence sans plus attendre cette émission de l'Amphi.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
Robin Hulin, vous êtes journaliste à Radio Alpa, vous venez nous parler d'une conférence sur l'Europe que vous avez animée le 17 avril en compagnie de quatre intervenants et en partenariat avec la Maison de l'Europe. Alors est-ce que vous pourriez commencer par nous rappeler ce qu'est la Maison... Non, si éventuellement, si vous voulez nous rappeler ce que c'est que la Maison de l'Europe.
Oui, la Maison de l'Europe, c'est une association de base. Hein. C'est une association, alors il y en a une dans chaque département pratiquement, et ici ça s'appelle la Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe. Donc c'est un organisme qui agit pour sensibiliser, informer au rôle de l'Union Européenne en faisant de la pédagogie avec des bénévoles. Il y a différentes actions, on va dans des collèges, on va dans des écoles, s'adresser à la jeunesse, pas seulement à tous les âges, toutes les générations. Et donc on va sensibiliser sur les enjeux des élections européennes, par exemple, sur le rôle des différentes institutions de l'Union européenne, la Commission, le Parlement, etc. On va faire des conférences, bref, c'est la Maison de l'Europe, c'est pour intéresser et montrer l'importance que l'Union européenne a dans notre quotidien et dans les actions qui se répercutent à l'échelle locale.
Et quelle a été donc la question centrale de cette conférence sur l'Europe que vous avez animée ?
Donc c'est une conférence qu'on a animée en partenariat avec la Maison de l'Europe, comme tu l'as dit. Europe, la Maison de l'Europe et Europe Direct, c'était donc dans un des amphis de l'IUT de l'université. Et on avait choisi de partir sur la thématique en rapport avec les élections européennes. Donc voter oui, mais pourquoi ? Donc le but c'était d'expliquer un peu les enjeux de cette élection. Qu'est-ce que c'est que les élections européennes, dont on parle beaucoup, mais peut-être qu'on ne rentre pas assez dans le fond du sujet. Et donc expliquer principalement le rôle du Parlement et en quoi les députés européens sont importants dans notre paysage sociétal.
Et quel est l'enjeu justement de cette question « voter oui, mais pourquoi ?»
Mais c'est surtout de nous faire comprendre à quel point l'Union européenne et le Parlement font des actions qui se répercutent directement sur l'échelle locale et dans notre quotidien, sur les questions numériques par exemple, mais pas seulement, sur l'agriculture, sur certains sujets sur l'environnement, etc. Ça, c'est le rôle du Parlement, c'est lui qui dicte beaucoup de choses, plus que ou autant que l'Assemblée nationale. Et donc, il y avait différents intervenants. Il y en avait quatre.
Vous les présenter ?
Ouais, voilà, il y en avait quatre. C'est une conférence donc, qui a duré 1h15. Donc les auditeurs, on donnera les informations dans quelques instants. Les auditeurs pourront écouter ça dans quelques jours. Donc il y avait quatre intervenants. Thierry Chopin, qui est un conférencier qui intervenait avec sa casquette de l'Institut de l'Or. On avait deux intervenants de la Fondation Jean Jaurès, Dorian Dreuil et Marinette Valliergue. Et on avait Pierre-Louis Gastinel, qui est un conférencier Team Europe. Conférencier Team Europe, c'est-à-dire que l'Union européenne a des conférenciers qui interviennent sur différentes questions. Donc Pierre-Louis Gastinel était là pour nous rappeler ce que c'est que l'Union européenne, le rôle de la Commission, le rôle du Parlement, comme on l'a dit, comment est-ce qu'elle fonctionne, tirer le bilan de ces cinq dernières années avec la présidente de la Commission, qui s'appelle Ursula von der Leyen, et montrer en quoi son rôle est important et parler un petit peu des différents partis politiques qui composent l'Union européenne et le Parlement. Ensuite, avec Thierry Chopin, on a surtout parlé du contexte actuel, donc dans lequel s'inscrivent ces élections, un contexte qui est un petit peu particulier. Il y a, dans beaucoup de pays, une montée des extrêmes, des colères sociales, les questions d'environnement qui reviennent. Et quelles sont donc les questions et préoccupations qui reviennent un peu dans l'opinion quand on sonde les Français. Et enfin, avec Dorian Dreuil et Marinette Valliergue, on parlait surtout du Rassemblement National. Et pourquoi est-ce qu'il caracole en tête ? Comment expliquer un peu ce phénomène de l'extrême droite aujourd'hui qui progresse ? Et quel avenir un peu pour le Parlement si demain la droite, les conservateurs et surtout l'extrême droite sont assez majoritaires.
Et pourquoi est-ce que la question de l'Europe, et d'ailleurs est-ce que la question de l'Europe s'impose aujourd'hui comme un enjeu central ?
Absolument, parce que comme on l'a dit en début d'entretien, aujourd'hui peut-être qu'on ne se renseigne pas assez, qu'on n'informe pas aussi, puisque c'est le rôle de la presse et de certains médias d'informer sur l'importance de l'Europe. Donc ça a un rôle central, certes, et on doit savoir pourquoi ça a un rôle central. On ne sait pas forcément que le Parlement ne dicte pas tout. Ce qui dirige réellement l'Union européenne et ce qui impose le rythme, c'est la Commission. Et la Commission décide de la politique et propose ensuite au Parlement qui, lui, vote les lois en débat, les refuse, les valide, etc. Et puis on est aussi dans un Parlement européen qui est particulièrement fragmenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité dans ce Parlement aujourd'hui. On peut en trouver, on a les conservateurs, on a la droite libérale, on a l'extrême droite, on a les écologistes, la gauche, etc. Mais pratiquement tous les groupes sont assez importants, suffisamment importants pour ne pas être en grande minorité, donc il n'y a pas de majorité qui se dégage. Donc l'Europe aujourd'hui, la France fait partie de l'Union européenne, ne l'oublions pas, et si aujourd'hui les Français sont majoritairement méfiants envers l'Europe, ils sont aussi très majoritairement favorables à ce qu'on y reste. Donc c'est-à-dire que le Brexit a pu montrer à certains de nos voisins européens et à nous-mêmes en France que ce n'était peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Et aujourd'hui, ces idées de quitter l'Union européenne se sont beaucoup ralenties, se sont peut-être même ringardisées. Donc c'est un peu l'enjeu de cette conférence et qu'on va pouvoir écouter et faire découvrir à quel point aujourd'hui l'Union européenne joue un rôle majeur et surtout à quel point on est peut-être parfois mal renseigné.
Et alors justement, quand est-ce qu'on pourra l'écouter cette émission ?
Alors ce sera le dimanche 28 avril. Donc c'est sur le créneau des escalpades, des émissions hors les murs qu'on fait. Donc ce sera le dimanche 28 avril de 13h. Voilà, c'est ça. Bah,
c'est
un magnifique anniversaire, exactement. On s'est calé là-dessus. Ce sera entre 13h et 14h30, donc à découvrir. Et c'est cette conférence. Il y a un temps d'échange avec le public qu'on n'a pas enregistré, puisqu'on souhaitait conserver vraiment l'intervention de ces quatre conférenciers. Donc voilà, 13h, 14h30, pas ce dimanche-là, mais celui d'après.
Ça marche. Eh bien, merci beaucoup Robin Hulin pour
ce
communiqué sur l'émission de la conférence du 17 avril dernier sur l'Europe, qui sera donc diffusée sur Radio Alpa le 28 avril. Merci beaucoup. Et on passe désormais à notre invité du jour. Bonjour Léa Vaucel.
Bonjour Charlie.
Alors tu es engagée dans un parcours qui te forme au métier d'ébéniste.
Tout à fait.
Est-ce que ça a toujours été une vocation chez toi ou bien c'est un changement de parcours ?
Alors, c'est pas vraiment une vocation, c'est arrivé sur le tard. Moi, de base, je sors d'un bac littéraire, donc avant la réforme du bac. Et après, je suis partie dans des études d'art appliqué et d'art plastique, donc pendant 2 ans. Et j'ai arrêté parce que c'était des études qui me convenaient pas. Enfin, c'est pas vraiment que ça me convenait pas, j'étais dans un domaine qui me plaisait, mais déjà la forme que ça prenait ne me correspondait pas, et en plus les débouchés que j'avais derrière ne me convenaient pas non plus.
D'accord.
Donc j'ai préféré arrêter mes études pour pouvoir me recentrer et vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie finalement.
Et donc, il me semble que tu es passée après par la mission locale, pardon, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait.
Alors, de quelle manière est-ce qu'ils t'ont accompagnée ?
Eh bien, en fait, j'étais accompagnée par plusieurs accompagnantes, surtout. Tout simplement, pour un projet de réorientation, ils nous font passer des tests de personnalité, des tests de compétences, mais plus nos intérêts.
D'accord. Oui.
Et après, une fois que on a passé ces différents tests, et bien ça nous donne une large liste de métiers dans ces domaines-là. Et puis après, on fait notre sélection. Et une fois qu'on a fait notre sélection, on fait des stages.
Ok. Donc voilà. tu as pu faire des stages avant d'entrer en formation.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Pour justement confirmer le fait que je voulais m'engager dans la voie que je souhaitais.
Et du coup, est-ce que ces petits stages, parce que c'est des stages courts, hein, sur une semaine, c'est ça ?
Oui, enfin moi en tout cas, j'ai eu le malheur, on va dire, de commencer mon projet de réorientation pendant le Covid.
Ah, yes.
Donc c'était un peu compliqué déjà de trouver des stages.
Oui, forcément.
Et oui, c'était quelques jours, une semaine.
Et t'as pu en faire combien ? Un ou deux ?
Deux.
D'accord, c'est ça. Et alors, est-ce que ces petits stages t'ont conforté dans l'idée que c'était ta voie ?
Tout à fait. Le premier que j'avais fait, bon, c'était du relooking, donc c'était pas vraiment, c'est même pas du tout de l'ébénisterie. Mais disons que ça m'a conforté dans le fait que
du relooking, bah, c'est-à-dire
du relooking, c'est on prend des vieux meubles et on les décape et puis on refait la peinture par-dessus quoi.
Et ça reste sur du meuble quoi. C'est ça, pas ça du reste relooking sur des mannequins quoi. Là en effet, ça aurait pas eu grand-chose à voir avec
l'ébénisterie. Non, pas du tout. Non, relooking de meubles. Je faisais déjà ça avant en amatrice. Et donc bon bah j'aimais ça, donc c'était un stage qui m'a bien plu. Et après j'ai fait une semaine en restauration de mobilier d'art. Et là c'était une totale découverte et je suis tombée amoureuse du métier.
Et donc tu es partie sur un CAP ébénisterie à Sablé, c'est
ça? Oui, c'est ça.
Alors tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, sur cette formation?
Alors moi j'ai fait un CAP donc en un an, voire même plutôt 6 mois, puisque ma formation a commencé en novembre.
D'accord.
J'ai fait avec le Greta. Donc c'est un centre de formation pour adultes. Donc voilà, on était une quinzaine dans la classe. C'était surtout des adultes qui faisaient une reconversion professionnelle. Donc voilà, ça allait du plus jeune qui avait 18-19 ans et le plus vieux était pas loin de la retraite.
D'accord, oui.
Donc voilà, et puis...
Et alors tu étais inscrite dans le cadre du Greta, c'est un organisme qui te permet d'avoir des subventions, des indemnisations pendant ta formation, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ça c'était le gros avantage, c'était de pouvoir être payée pendant ma formation. Parce que là actuellement, donc je suis plus en CAP, je suis un diplôme supérieur et là pour le coup je suis plus rémunérée. Quoi,
d'accord.
Parce que je suis plus...
Donc là, ce que tu fais actuellement, c'est un BMA, c'est ça?
Oui.
C'est l'étape suivante logique d'après le CAP?
Oui, après le CAP, c'est un BMA, donc c'est brevet des métiers d'art. Et voilà, là, ça dure 2 ans, vu que je suis en formation initiale. Donc je suis en classe avec des lycéens, en gros.
Et qu'est-ce qui distingue le CAP du BMA? Enfin, le CAP c'est sur un an, le BMA c'est sur 2. Mais autrement, qu'est-ce qui distingue vraiment? Où se situe la progression en fait?
Déjà, c'est des niveaux supérieurs de l'ébénisterie. On apprend des techniques qu'on n'apprend pas en CAP. Par exemple, ça va être le chantournement, ça va être le cintrage, ça va être...
Beaucoup de mots compliqués.
Oui, beaucoup de mots compliqués.
C'est quoi le chantournement?
Le chantournement, je sais pas si tu vois les pieds Louis XV.
Qui sont... Ouais, carrément, je vois complètement
non,
les pieds Louis XV.
les pieds galbés.
Ouais.
C'est un pied qui est galbé, enfin tout en courbe et tout, et le chantournement, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir créer ce pied galbé.
D'accord.
Voilà, donc j'ai pu faire ça sur une petite chiffonnière.
Et comment ça se passe en fait au niveau du contenu de cette formation? Vous avez de la théorie, de la pratique?
Oui, alors moi, je suis surtout les matières professionnelles, vu que j'ai déjà mon bac, donc j'ai le droit à être dispensée des matières générales, et ça, c'est vachement chouette. Donc, c'est des heures d'atelier, des heures d'art appliqué, des heures d'histoire des styles aussi. On apprend beaucoup l'histoire du mobilier. Et on a aussi des heures d'informatique et de dessin technique.
Ok, voilà. Ça marche. Alors, tu as donc fait plusieurs stages au cours de ces années de formation. Est-ce que tu peux nous en parler, tes différents stages?
Alors donc j'ai fait plusieurs stages en restauration de mobilier. La restauration de mobilier, c'est des meubles, des vieux meubles qui datent d'il y a 200, 300 ans et on vient les réparer tout simplement.
Ok.
Donc voilà, c'est des techniques qui sont plutôt particulières vu que les anciens meubles sont très travaillés et donc il faut les réparer mais tout en respectant le meuble et le travail qui a été fait avant.
D'accord.
Donc voilà, c'est beaucoup de conservation, beaucoup de minutie aussi, donc voilà. Et sinon j'ai fait aussi de l'aménagement. J'ai fait un stage chez un créateur ébéniste qui faisait aussi des aménagements. Donc voilà, et puis j'ai fait aussi un stage en aménagement de luxe.
Ok.
Voilà.
Alors qu'est-ce qui va différencier l'aménagement tout court et l'aménagement de luxe en fait?
C'est surtout les clients.
D'accord, ouais.
Les clients et puis les matériaux qu'on va utiliser. On peut utiliser du bois exotique plutôt que du chêne par exemple. Même si le chêne c'est un matériau très noble, on va utiliser par exemple du palissandre ou autre quoi.
Ça marche. Ouais. Alors, tu as fait un premier stage en atelier partagé à Nantes.
Oui.
Qu'est-ce que c'est, en fait, un atelier partagé?
Alors, un atelier partagé, c'est incroyable. c'est une grosse structure avec des postes, des établis, des machines. Et en fait, plusieurs artisans vont venir dans ce local-là, payer un loyer et pouvoir utiliser ces machines, ces établis, etc. Et donc, c'est tout plein d'artisans, en fait, qui sont à leur compte, mais qui se regroupent au même endroit et qui peuvent travailler ensemble.
D'accord, ça marche.
Voilà. Et du coup, on retrouve tout plein de corps de métiers différents. Mmh. Moi, dans lequel je suis allée, il y avait beaucoup de menuisiers et d'ébénistes, mais il y avait aussi des gens qui travaillaient le métal, la couture, qui faisaient aussi des impressions 3D. Enfin, vraiment, c'est tout plein de choses. Il y avait aussi des designers. Enfin, vraiment, c'est tout plein de corps de métiers qui se rencontrent et qui partagent ensemble.
Et ça leur arrive de travailler ensemble sur un même projet, des fois ?
Oui, tout à fait. Moi, par exemple, le stage que j'ai fait là-bas, du coup, donc je l'ai fait chez un ébéniste créateur, mais il était associé avec deux autres personnes. Mmh. Et du coup, j'ai travaillé avec ces trois personnes. Okay. Voilà. Et ouais.
Et alors, au cours de tes différents stages, est-ce qu'il y a des choses que tu as eu à faire qui t'ont posé des difficultés ? Est-ce que tu as rencontré des obstacles ?
Le métier d'ébéniste, c'est que des obstacles et savoir les surmonter. Monter un dressing dans un appartement parisien qui est absolument immense et il faut monter ça alors que la cage d'escalier est minuscule, quoi. Donc déjà, c'est un gros défi, ça fait les muscles. Quoi d'autre?
Parce qu'il y a tout le travail logistique, en fait, aussi. Il y a le fait de monter le meuble, mais il faut aussi pouvoir l'amener chez le client.
Oui. Et puis, des fois, le client, il n'aide pas vraiment. Hein.
Ça marche très bien. Et alors, quels travaux est-ce que tu as à produire à l'issue de tes 2 ans de BMA?
Alors, ce que j'ai fait en BMA, j'ai fait pendant toute la première année une chiffonnière. Une chiffonnière, c'est un petit meuble avec trois tiroirs. Voilà, c'est un petit meuble d'appoint, on va dire. Mmh. Un petit meuble d'appoint. Et on avait le plaquage à travailler, donc le chantournement aussi. On a travaillé ce qu'on appelle les queues d'aronde. C'est une technique, une vieille technique qu'on utilise pour les tiroirs, d'assemblage de tiroirs.
Ok.
Voilà.
Il y avait une contrainte spéciale pour cette chiffonnière ?
Non.
Il fallait enlever un pied, par exemple ?
Ah oui, si ! J'avais oublié parce que moi, je ne l'ai pas fait.
Ah bah bravo !
Mais non, mais oui. Alors, en effet, j'avais complètement oublié. On devait créer une prothèse pour notre chiffonnière, travailler sur l'idée de la prothèse.
Très bizarre comme idée, ça, quand même.
Oui. Mais ce sont des designers, plusieurs designers ont travaillé sur le thème de la prothèse pour un meuble. Donc pour moi, ce n'était pas nouveau, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Moi, je ne l'ai pas fait parce que déjà, je n'avais pas envie. Franchement, quand on m'a dit ce sujet, j'ai fait non, je n'ai pas envie d'enlever un beau pied à ma chiffonnière.
Pour mettre un truc moche à la place.
Pour mettre un truc moche à la place, franchement, je n'avais pas envie. Et puis, déjà, il y avait le temps. C'est, même sans le projet de la prothèse, c'est un ouvrage qui nous a pris beaucoup de temps. Mmh. Et on n'avait pas non plus la matière première, finalement.
Il y avait une contrainte de matériaux aussi.
Oui. Bah, déjà, de base, si on a travaillé sur la prothèse, parce qu'on avait un manque de matériaux, donc on s'est dit, bon, on enlève un pied, on met une prothèse, mais finalement...
Et alors, après cette chiffonnière, qu'est-ce que tu as dû accomplir pour ta formation ?
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait une horloge plutôt simple. Là, on devait juste créer notre propre horloge par duo. Mmh. Nous, on a décidé de partir sur une horloge inspirée du peintre Dali. Mmh. Donc, on a fait une horloge qui dégouline du mur. Voilà.
Ça marche pas mal.
Ouais, ça marche pas mal. Et puis sinon, je viens tout juste de terminer un plafonnier en forme de nautile. Mmh. Voilà. Et là, on a travaillé le cintrage du bois.
Et tu travailles toute l'année aussi sur un projet très, très important, très large, que tu dois rendre à la fin de l'année, c'est ça ?
Oui, c'est le projet de réalisation. C'est un gros projet qui nous dure toute la terminale de BMA, voire même le dernier tiers de la première année. Et en fait, on choisit un sujet. Moi, j'ai choisi le drag. Donc, on choisit un sujet sur lequel on décide de travailler. Et donc, on va analyser le sujet. Et à la fin, il faut qu'on... il faut qu'on conceptualise un meuble en rapport avec ce thème-là.
D'accord.
Et ça va nous durer toute l'année, puisqu'il y a beaucoup de travail à abattre. Donc déjà, il faut analyser le thème qu'on a choisi, puis après, établir un cahier des charges, et après, faire des différentes recherches sur le meuble qu'on veut faire. Il faut faire d'autres recherches aussi sur le meuble, aussi, comment il a été conceptualisé avant. Moi, j'ai choisi de travailler sur la coiffeuse. Et du coup, j'ai dû faire des recherches sur les différentes coiffeuses qu'il y avait avant et comment je peux revisiter ça dans le thème que j'ai choisi. Et puis à la fin, pour faire des propositions. Et après,
Et concrètement, ça ressemble à quoi ce que tu rends, en fait ?
À un gros dossier.
D'accord.
Un gros dossier et aussi très important, c'est la mise en page.
D'accord. Okay.
C'est la mise en page, c'est vraiment un dossier qui va refléter l'essence de notre projet, quoi. Et moi, j'ai décidé vraiment d'y aller à fond, donc ça me prend beaucoup de temps.
Et alors, sur quoi est-ce que tu envisages d'enchaîner par la suite ?
Alors, normalement, après un BMA, la suite logique, c'est de faire soit un DMA, soit de faire un DNMAD. Le DNMAD, tout le monde peut y aller, même si vous n'avez jamais touché un bout de bois avant. Et le DMA, c'est diplôme des métiers d'art, et donc là, c'est niveau supérieur de l'ébénisterie, quoi.
Mais alors, pourquoi le DNMAD, ça peut être une suite logique du BMA s'il n'y a pas besoin de compétences préalables ?
Parce que c'est quand même... on va quand même travailler le mobilier, mais le DNMAD, ça va être plus de l'expérimentation.
D'accord.
L'expérimentation du mobilier et d'autres, d'autres matières aussi.
Et il y a une spécialité dans laquelle tu veux te diriger ?
Oui. Donc, je disais que la suite logique, c'était le DMA. Et moi, je me suis rendu compte que les suites logiques, c'était pas forcément très logique. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le travail de la finition.
D'accord.
Et la finition, c'est tout ce qui va permettre de donner l'aspect final au meuble, donc sa couleur, son brillant.
Ça va être l'esthétique du meuble,
ça va être l'esthétique,
en quelque sorte.
Exactement.
D'accord.
Mais vraiment la dernière touche, parce que l'esthétique du meuble, tout peut y participer, mais ça va être vraiment la dernière touche, la touche finale, tout simplement.
Donc tu comptes partir sur une formation qui est spécialisée dans la finition ?
Tout à fait. Moi, je vais faire un CQP, donc certification de qualification professionnelle, en tant qu'opérateur en finition. Et voilà, le problème, c'est que c'est une formation qui a très peu de demandes. Il y a très peu de personnes qui veulent faire de la finition. Et ce que je peux comprendre, parce que la finition, c'est quelque chose d'assez ingrat à pratiquer. Mais moi, c'est ce que j'adore. Donc, donc voilà. Mais,
Du coup, la formation, vu qu'il y a peu de monde...
Vu qu'il y a peu de monde, peut-être qu'elle ne va pas ouvrir.
D'accord, c'est ça le risque.
C'est le risque.
Il faut que tu te mettes en même temps sur le DMA plus large.
Ouais, voilà, c'est ça. Je suis quasiment certaine d'entrer en DMA si j'ai un apprentissage, parce que le DMA, c'est obligatoirement un apprentissage.
Mais donc, il faut que tu trouves une entreprise avec qui tu seras en alternance.
Tout à fait.
D'accord.
Ouais. Et c'est pas de la tarte.
C'est évident. Ça, on le sait bien, tous ceux qui doivent faire une alternance le savent.
Oui.
Alors, est-ce qu'une fois tes diplômes obtenus, tu comptes monter ta propre entreprise ?
Non.
Non, d'accord. Non.
Déjà, on ne monte pas une entreprise de finition, ça n'existe pas.
Mmh.
Enfin, si. En vrai, si, ça existe. Mais ça va être des entreprises qui vont faire du relooking.
D'accord.
Mais c'est tout.
Mmh.
Voilà.
Eh bien, merci Léa Vaucelle pour nous avoir témoigné de ta formation au métier d'ébéniste.
Merci beaucoup Charline de m'avoir accueilli.
On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Inuit le 24 avril à Eve en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute donc Savannah Saturn, Sorry for Your Car.
I saw your car and the lot was empty. Late at night, no one could see me. Reach for my bag and pull out a key. So baby, I'll meet you in hell.
On écoute à présent la version longue de l'interview de la poétesse Cléa Provence que nous avions dû écourter lorsqu'elle était venue lors d'une émission plus courte le 26 mars dernier. Donc on écoute ça tout de suite. Je suis avec une jeune poétesse Cléa Provence, bonjour.
Bonjour.
Alors tu as fait un master de recherche création littéraire, on expliquera davantage ce que c'est. En tout cas tu as pu y développer ton activité poétique que tu continues d'explorer, notamment dans un compte Instagram, aussi dans des soirées poésie à Paris. Mais tu suis également une formation de conteuse. Alors ça fait beaucoup de choses, on va tarder sur chacun de ces aspects. D'abord je voudrais savoir d'où te vient ce goût pour la poésie.
Alors c'est une histoire un peu nulle.
D'accord, ça commence bien.
Non, en fait, à l'origine, j'écrivais de la prose et de la prose romanesque plutôt. Mmh. Et en arrivant en master de créa littéraire, le hasard fait que je rencontre des poètes qui étaient des camarades de promo, de copains à moi. Et en fait, du coup, je sais pas, je me suis dit, oh bah tiens, bah, pourquoi on ferait pas de la poésie?
Ah oui, donc c'est vraiment, c'est à l'impro, quoi.
Clairement.
Mais t'es rentrée dedans direct, quoi. Ça a matché avec toi, on va dire, quoi.
En fait, c'était de la curiosité. Je me suis dit, j'ai 2 ans de master de création littéraire, autant tenter quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et puis je pense qu'il y avait une curiosité aussi.
Donc t'as commencé à écrire de la poésie une fois arrivé en master de création littéraire, c'est ça?
Ouais, d'accord. Exactement, pas avant.
Ok. Est-ce que d'ailleurs tu n'écris que de la poésie?
Non, pas que de la poésie. Là, je travaille sur un roman. Mmh. Je reviens toujours à mes premiers amours. Et donc oui, et puis j'écris de la poésie. Enfin, j'appelle ça poésie, mais maintenant, est-ce que c'en est ou pas concrètement? Je vais dire que je laisse ça à l'appréciation du lecteur, oui, ou de la lectrice.
La poésie, c'est un champ très large. En fait, c'est compliqué de délimiter vraiment la poésie, quoi.
Exactement, surtout que je ne fais pas de poésie versifiée, rimée, avec des formes fixes. De toute façon, c'est plus trop l'apanage de la poésie contemporaine, d'ailleurs. Ouais. Donc concrètement, voilà, je dis que je fais de la poésie parce que ce mot me va bien et qui me permet... De situer ces écrits-là dans un cadre spécifique, mais voilà, concrètement...
Alors du coup, tu as fait prépa littéraire, hein, c'est bien ça, Hippocane, plutôt dans ce temps-là. Et ensuite, tu es parti en master de recherche création littéraire à Cergy. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Parce que c'est pas évident, master de recherche création littéraire, on voit pas très bien ce que c'est de prime abord.
Ok, alors master de recherche créa, c'est un master qui couple une approche théorique de l'acte d'écrire et aussi de la littérature contemporaine par ailleurs, et avec tout un pan aussi de création. Et en fait, l'idée de la recherche création, c'est aussi de porter un regard critique et théorique sur notre propre écriture. Nos œuvres, si on en écrit, etc. Enfin, il y a tout un pan de réflexion en fait qui est mis en place en parallèle de tout le processus créatif.
Alors du coup, concrètement, comment ça marche? À quoi ça ressemble un mémoire de recherche création littéraire?
C'est la question que tout le monde se pose. En principe, pour résumer ça comme ça, on va dire qu'il y a donc la problématique du mémoire et qu'il y a une œuvre, et un pan théorique qui vient essayer de répondre à cette problématique, de l'illustrer par un côté créatif et un côté théorique qui par ailleurs se mêle constamment parce que l'œuvre fait écho à la théorie. La théorie ne peut pas vraiment survenir sans tout ce travail artistique en amont. Donc en fait c'est un travail qui s'interpénètre constamment.
Donc il y a un travail de recherche de forme du coup pour synthétiser, pour fusionner ces deux aspects là peut-être.
De forme et puis de fond aussi parce que selon la thématique qu'on aborde, le travail formel, le travail sur la thématique, etc. Enfin voilà, il faut un certain bagage littéraire qu'on accumule au fur et à mesure qu'on fiche des livres, qu'on écoute des trucs.
Et alors quel était le sujet de ton mémoire du coup?
Alors, je suis partie d'une intuition que j'ai soutenue tant bien que mal, qu'en gros, pour les auteurs médiévistes du XXe et XXIe siècle, il y avait dans leur écriture ce que j'ai appelé une poétique du Graal et qu'ensuite, à la fin de mon mémoire, par ailleurs, je conclus comme une poétique percevalienne.
D'accord.
Qui viendrait donc du conte du Graal, un espèce de monument en fait de la littérature médiévale que ces auteurs médiévistes que j'ai étudiés, qui sont donc Bonnefoy, Quignard et Roubaud, c'était vraiment mon corpus principal, ont lu. Et l'idée c'est de voir comment leurs gestes d'écriture manifeste cette poétique du Graal, comment elle intervient formellement, qu'elle intervient aussi même dans l'écriture, avec les mots comme tels, les thèmes, etc. Enfin, vraiment, il y avait cette idée d'une poétique en fait, qui se crée à partir de cette lecture et qui vient et qui intervient sur le geste d'écriture de ces auteurs.
D'accord. Et qu'est-ce qui nourrit ta poésie en fait? Est-ce qu'il y a des grands thèmes qui t'inspirent?
Bah déjà, quelque part, il y a tout un univers, une ambiance. C'est peut-être le mot qui est le plus approprié d'ailleurs.
Okay.
Une ambiance médiévale, quelque chose comme ça, de l'ordre du conte aussi, ça revient beaucoup. Le folklore, les choses comme ça, ça me nourrit beaucoup, ça me parle énormément. Et,
les récits qui se transmettent oralement en fait.
Oui, alors bah maintenant, de façon très figée à l'écrit, même si on peut encore avoir des expériences de conte, en fait. Mais oui, en fait, tout ce qui appartenait en tout cas à une tradition orale originellement, et qu'on retrouve du coup maintenant beaucoup à l'écrit aussi, mais toutes ces choses-là nourrissent beaucoup mon écriture et mon univers mental. Et c'est de là ensuite que surviennent des textes.
Alors j'orientais un peu vers l'oralité parce que il me semble que l'oralité c'est assez important en poésie contemporaine. Tu participes notamment à des soirées poésie à Paris. Alors, comment est-ce que ça se passe en fait ce type de soirée?
Bah ça dépend. Dernièrement je n'y ai plus trop participé en tant que
performeuse.
Que performeuse, ouais. Parce que j'ai eu aussi un moment de sèche en fait en écriture de poésie, j'avais pas envie de forcer. Mais les peu de fois où je suis intervenue, en fait, c'est très souvent. Alors soit ce sont des scènes ouvertes, mais en fait ce sont des scènes ouvertes où il y a une liste d'attente, donc il faut être très rapide
pour pouvoir participer.
Pour pouvoir participer, voilà. Soit tu es invitée. Et en fait, bah voilà, tu lis un texte devant des gens. Ça peut être donc une simple lecture. Moi, c'est vrai que je suis un peu plus dans ce truc-là. Et puis après, tu as des performances où tu as vraiment le corps qui agit, où tu as vraiment aussi un travail de musique, etc. Presque d'acting aussi. Enfin, pour l'instant, je me sens pas encore d'aller jusque-là, mais aussi parce que mes textes s'y prêtent pas, en fait.
C'est pas quelque chose à laquelle tu penses, la mise en voix, quand tu écris?
Ça intervient de plus en plus. Mais c'est aussi parce qu'il fallait un temps justement de compréhension de l'oralité de la poésie, qui en fait quand on vient vraiment, enfin c'est horrible comme phrase, quand on vient du roman, c'est pas forcément une question qu'on se pose. Et surtout que quand j'ai commencé la poésie, c'est aussi qui est marrant, c'est que j'avais zéro bagage poétique quoi. Enfin je veux dire, j'avais lu comme tout le monde du Rimbaud, du Verlaine au lycée, mais j'avais pas une acquaintance particulière pour la poésie. Donc après, c'est en lisant aussi qu'il y a des questions qui se posent, en voyant justement des gens venir lire, que cette question-là apparaît de plus en plus. Mais c'est vrai que je pense ma poésie beaucoup comme un, moins comme un espace d'oralité,
ouais,
que comme un lieu, en fait, où se déroule quelque chose, une histoire. Il y a vraiment cette notion d'histoire qui revient beaucoup dans mes poèmes. Et ce qui m'intéresse,
c'est une poésie
plus,
qui est plus mentale qu'auditive.
Ouais, c'est ça, quelque part, ouais. Qui en fait, c'est un peu le but de mon écriture. Enfin, le but, c'est un peu prétentieux de dire ça, parce que je peux avoir des intentions, mais ensuite, je ne suis pas forcément maîtresse de l'effet que ça produit. Ça peut être très raté. Mais l'idée, c'est, j'ai envie de baigner, justement, ce terme d'ambiance, je vais le réutiliser. J'ai envie de baigner les gens dans une ambiance, dans des couleurs, dans des images très particulières. C'est quelque chose qui me parle plus, notamment parce que je pense que je suis très visuelle, du coup. Et l'idée, c'est de profiter...
Tu es très visuelle dans ton rapport au monde, tu veux dire?
Oui.
D'accord, ça marche.
Mais du coup, oui, voilà, donc ça porte pas mal ma façon d'appréhender la poésie aussi.
Alors, tu nourris également un compte Instagram qu'on peut trouver en écrivant sol-par-3, sur lequel tu publies des poèmes. Alors déjà, d'où vient ce pseudo Sol?
Pareil, c'est d'une banalité affligeante. Hein. Enfin, franchement, faut pas imaginer des trucs de ouf. C'était aussi un moment où, en fait, je renouais avec une partie assez solaire de ma personne, tout simplement.
D'accord, ok.
Et comme tout s'est passé un peu en même temps, j'ai trouvé que c'était chouette. J'aime bien les pseudos courts. J'aimais bien la sonorité. Et en fait, voilà, c'est venu comme ça. Pareil, il n'y a pas d'histoire de dingue derrière, je suis désolée.
En tout cas, en lisant tes poèmes, on remarque une certaine anomalie formelle. C'est-à-dire qu'il y a des segments de texte en italique et émargé à droite. À quoi ça correspond, cette mise en forme?
C'est un peu comme si le texte avait une seconde voix. C'est quelque chose, en fait, c'est un geste qui est vraiment venu spontanément quand je me suis mis à écrire. C'est que quand le poème me venait en tête et que je commence à l'écrire, j'avais l'impression d'une seconde voix qui à un moment intervenait, comme si c'était de l'ordre de la confidence, de la précision, un petit personnage qui rajoute sa voix en plus. Et ça s'est fait un peu comme ça, et c'est quelque chose qui me parle parce que quelque chose se produit. Alors après, voilà, c'est très compliqué aussi de parler de son geste. Je théorise pas forcément tout. Il y a aussi des choses qui sont un peu intuitives parfois et que j'aime bien laisser à ça parce que du coup, ça permet aux autres ensuite de l'interpréter comme ils le veulent. Et je tiens pas forcément non plus à ce qu'on interprète les choses exactement de la manière dont moi je les perçois. C'est la réception du poème, du roman, de l'écrit... J'ai pas forcément la main dessus et c'est pas très grave et c'est pas forcément ce qui m'importe d'ailleurs.
Okay.
Enfin, si j'arrive à créer cette ambiance, ça c'est vraiment mon but quelque part. Mais maintenant, si ça échoue, ça échoue. Mais si, en tout cas, s'il se passe quelque chose pour le lecteur ou la lectrice, moi ça me convient en fait. L'idée c'est que un poème, une œuvre, elle interagisse avec un individu. Ça c'est ce qui compte. Maintenant le reste...
Alors, on va passer à un autre aspect de ton activité. Tu as animé quelques ateliers d'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ça aussi. En fait, je pense qu'on peut résumer ça. Ma vie artistique est une succession de rencontres fortuites et de hasards. En étant un master de recherche créa, en fait, on a été formé aux ateliers d'écriture, chose à laquelle je n'aurais jamais pensé de moi-même. Et en fait, j'ai pris un plaisir pas possible là-dedans. C'est un plaisir assez... égocentrique, hein, quelque part, c'est juste le fait de proposer un atelier et de voir des gens être complètement touchés, épanouis, être heureux d'en ressortir, d'avoir envie d'écrire et surtout d'avoir démystifié le côté, les grands auteurs, il faut avoir une plume incroyable pour écrire et en fait de proposer aux gens juste une expérience. Et de les aider en fait à s'approprier un geste d'écriture qui est le leur, mais juste de l'apprivoiser et de cohabiter avec, et de plus avoir un regard perfectionniste, bourgeois, institutionnel sur leur écrit, et juste de prendre ce plaisir-là, et en fait se dire « Oh waouh, j'ai réussi aujourd'hui à ce qu'il y ait une personne qui soit hyper enthousiaste par ce que j'ai proposé. »
Et du coup, ça c'est égocentrique, du coup, ça?
Oui, forcément, parce que ce plaisir, c'est parce que je donne ce plaisir que je suis contente de voir que ça fonctionne.
Alors du coup, est-ce que tu comptes en refaire à l'avenir?
Oui, je compte lancer une activité d'animatrice d'atelier et d'écriture parce que c'est vraiment un sentiment très chouette et j'aimerais bien plus tard, mais là je me trouve un peu jeune pour l'instant pour l'envisager, le faire par le biais de l'art-thérapie.
D'accord.
Mais voilà, je me dis que faut d'abord un peu peut-être de vécu et des épaules plus solides avant de, d'aller dans ce genre de terrain, parce qu'il faut pouvoir porter, écouter et réceptionner des discours qui sont parfois difficiles, et je m'en sens pas encore capable maintenant, mais c'est un but à terme en tout cas. Et puis après, bon, on sait pas, hein, l'avenir est fait de tellement de choses que dans 3 jours je vis dans une caravane et je suis jongleuse de rue, mais
l'avenir le plus probable sans doute. Alors, autre aspect encore de ton activité, tu suis en ce moment des stages de conteuse, c'est bien ça ?
Oui, je me forme pour être conteuse, effectivement.
Alors, en quoi ça consiste, cette formation ?
Il n'y a pas de formation vraiment, comment dire, comme universitaire, où voilà, tu suis un premier cursus. Et... En fait, tu as ce qu'on appelle l'âge d'or à Paris, qui est donc une des formations reconnues en France, qui dispense plein de stages de conte, aussi bien pour amateurs que pour personnes confirmées. Et en fait, bah voilà, tu sélectionnes ce que tu veux, et en fait, au fur et à mesure, bah, t'apprends, et pareil, en fait, ça se fait vachement sur le tas. Donc pour l'instant, j'en suis à mon 3e stage, j'espère en faire d'autres, mais à un moment, bah pareil, je vais lancer mon activité de conteuse, parce qu'il faut bien se jeter dans le bain à un moment, en fait.
Et alors, qu'est-ce que t'aimes dans cette activité de raconter des contes, et quel conte est-ce que tu aimes raconter ?
Alors, pour l'instant, j'en ai pas raconté beaucoup parce que, pareil, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités. Là, ma vie professionnelle me prend un temps assez conséquent et une énergie tout aussi grande. Mais sinon, j'ai un petit amour pour les contes merveilleux qui, en fait, sont beaucoup moins naïfs qu'on ne le pense.
Ok.
Enfin, il y a un travail derrière qui est incroyable. Enfin, franchement, il faudrait prendre une heure d'antenne pour en parler tellement c'est fou. Mais du coup, ça, c'est plutôt mon petit plaisir, et je pense que je vais vraiment me diriger vers ce genre de conte, sans occulter les autres, parce qu'ils ont tous quelque chose à apporter et qu'en fait il faut aussi pouvoir jongler entre les genres. Je tiens beaucoup à cette pluralité.
Ok.
Mais voilà.
Et alors, du coup, est-ce que tu as d'autres projets à venir dont tu voudrais nous parler, y compris des projets d'écriture éventuellement ?
Ben alors demain, mercredi 27 mars, je publie un poème sur mon Instagram, et ça fait bien longtemps que je l'avais pas fait, donc je suis contente. Et puis du coup, j'ai 2 projets en cours. Un qui est vraiment en train d'être rédigé, qui est un roman, et qui porte sur la question du fantasme au sens large.
Okay.
Je n'en dis pas plus.
Wow.
Ça sera la surprise dans vos librairies si un jour c'est publié.
Yes.
Et il y a aussi un recueil de poésie que j'aimerais écrire, et justement qui, d'une certaine manière, s'inspirerait, de façon un peu lointaine, mais il y a quelque chose dans cette énergie-là, du conte.
Ok.
Et pareil, ça j'en dis pas plus, parce que pour l'instant il n'y a rien qui est rédigé, c'est en cours
c'est
de construction
projets,
dans mon esprit, mais ça viendra.
Eh bien, merci Cléa Provence pour nous avoir parlé de toi et de ton activité,
mais
entre autres de poétesse. Merci beaucoup. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour les cinéastes en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Sun, I Killed My Man. Little pirate boy with your brilliant brain, remember me, I'm the mermaid you drew. What did we call that again, that little game, when you used to humiliate me every day? Aren't you ashamed? And now that you're dead, bye-bye month of May, there was no purpose in heaven you stay, and watching you go on these smooth waves is a beautiful picture on a beautiful day. I killed my man, I killed my pain. It is so beautiful watching him floating away. You fed fun with me yesterday. You ruined my life, so I took yours today. I killed my man, I killed my pain. It is so beautiful watching him floating away. You fed fun with me yesterday. You ruined my life, so I took yours today.
took yours today. I killed my man.
De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, on est avec Marie. Salut Marie.
Donc salut Charlie.
Et écoute, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un artiste ni d'un album en particulier, mais plutôt d'une question que je me suis posée. C'est pourquoi les anciennes musiques reviennent-elles à la mode ?
Ok, et ben on t'écoute.
Alors, on voit beaucoup de reprises d'anciennes musiques ou encore une glamourisation du passé autour de la chanson. Preuve en est la fameuse phrase « c'était mieux avant » utilisée à tort et à travers. Mais pourquoi pense-t-on que les vieilles chansons ont plus de valeur que les chansons actuelles ? D'abord, il ne faut pas oublier que le temps efface les médiocres. Ce que j'entends par là, c'est qu'on se souvient des artistes qui ont marqué la musique par leur prodige et pas de ceux qui ont fait des musiques très moyennes. Il n'y a qu'à voir la panoplie de musique pas terrible des années 80 qu'on a préféré oublier. Et d'ici 20 ans, on utilisera cette même phrase pour qualifier nos musiques actuelles. Donc cet argument ne fonctionne pas tellement. Du moins, il ne répond pas à ma problématique. Et puis la musique, tout comme beaucoup de choses, est un éternel recommencement. On est toujours inspiré d'anciennes musiques pour en faire des nouvelles. Par exemple, Stairway to Heaven s'est fortement inspiré d'une musique de Wojciech, c'est compliqué à dire, Kilar, pour le film Le Roi et l'Oiseau. Pour autant, Stairway to Heaven n'est pas moins bien que la musique de Kilar. Si les anciennes musiques reviennent à la mode, c'est surtout parce qu'on sait qu'elles vont bien marcher. Et elles ont déjà fait leurs preuves. C'est pour cela qu'une Dua Lipa peut reprendre sereinement du Elton John sans prendre le risque que ça floppe. Et en plus, du côté commercial, il y a aussi le fait que les musiques actuelles se ressemblent. Alors attention, je ne fais pas une généralité et je parle surtout de la pop, je ne parlerai pas du rap qui a une histoire totalement différente. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne conçoit pas les chansons de la même manière qu'avant. Aujourd'hui, tout le monde peut faire de la musique, il suffit d'installer un logiciel et de poster sur SoundCloud. Enfin bon, même si je sais, il faut aussi savoir jouer d'un instrument, ce n'est pas si facile que ça, mais dans l'idée, produire de la musique est plus accessible qu'avant. Donc les sons et les rythmes disponibles sur ces logiciels se ressemblent, ce qui fait que les musiques ont un peu toutes une sonorité commune. Les sons sont propres et ça ne laisse pas beaucoup de place à l'imprévu. Contrairement aux musiques d'avant qui étaient enregistrées instrument par instrument, et qui demandait des musiciens spécifiques selon le rendu que l'on voulait avoir. Quelque part, à travers ces vieilles chansons, on recherche l'imparfait et l'imprévu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la manière dont on consomme la musique. Depuis quelques années, il y a un retour en force des anciens supports musicaux, c'est-à-dire le vinyle ou encore le CD. On retrouve un lien avec la musique matérielle, ce qu'on écoute chez soi en allumant son tourne-disque. Cette manière de consommer de la musique s'oppose à la consommation actuellement généralisée, c'est-à-dire le streaming, qui nous permet d'écouter de la musique n'importe où sur son téléphone. Grâce à la matérialité, on achète des albums qui contribuent à ce rite presque sacré d'écouter une chanson chez soi. Seulement, la plupart des CD et des vinyles sont anciens et obligent à écouter une musique ancienne. Donc ces supports permettent de s'intéresser à d'autres musiques que celles qui sont connues aujourd'hui. Si les anciennes musiques reviennent à la mode, c'est aussi dû au sentiment de nostalgie. la nostalgie des personnes qui ont connu l'époque où ces musiques venaient de sortir, mais pas que, aussi la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue, et ici, d'un mouvement musical passé. On glorifie les Mick Jagger ou encore les Elton John pour ce qu'ils représentent, une époque dévolue. Une époque où il y avait par exemple des rockstars. Je pense que le côté rebelle de ces icônes, c'est ça en fait qui peut manquer à certains. Le fait que leur image était moins contrôlée que celle des chanteurs actuels. Aussi, il ne faut pas oublier que les musiques qui passent à la radio sont des musiques à la mode, et qu'il n'y a donc pas tous les genres musicaux qui passent. Chacun a ses préférences, et la télé ou la radio ne peut pas tout proposer. Donc on se plonge dans des musiques moins à la mode et donc plus vieilles. Il suffit qu'un réseau social popularise une musique pour qu'un genre musical revienne sur le devant de la scène et soit écouté par plus de gens et donc revienne à la mode. Donc j'espère que j'ai pu réussir à répondre à cette question et être assez claire sur les raisons pour lesquelles, selon moi, les anciennes musiques reviennent à la mode aujourd'hui.
Eh bien, merci Marie pour ta chronique, sujet très intéressant. On va l'illustrer tout de suite avec Bella Ciao, interprétée par Manu Pilas. Donc en fait, c'est la version qu'on entend dans La Casa de Papel, voilà la série qui a redynamisé cette chanson.
Una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire lassù in montagna. Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
Merci d'avoir suivi l'Amphi. On ne se retrouve que vendredi prochain, le 26 avril, pour un quiz grand guignolesque avec des anciens de Radio Alpa, mais aussi des membres de l'équipe. On devrait bien se marrer, je pense. D'ici là, je vous dis bonnes vacances et à bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi, l'émission étudiante.